Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Radio Diwa, la radio des Diwa et même au-delà. Bienvenue dans cette émission de CCC, c'est ça la classe. Derrière le micro, un professeur, en face de lui, une dream team, une équipe, une fine équipe en français de jeunes lycéens. Ils ont tous entre 15 et 17 ans, ils sont tous passionnés d'actualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir derrière les micros respectifs Clarisse, bonjour.
Bonjour.
Anne-Sophie.
Bonjour.
Martin.
Bonjour.
Mademoiselle Fanny.
Bonjour.
Monsieur Théo.
Bonjour.
Ulysse.
Bonjour.
Adrien.
Bonjour à tous.
Joris.
Bonjour.
Et enfin, the last but not the least, comme on dit. Non, c'est le contraire en anglais, je ne sais plus. C'est pas la matière que j'enseigne, c'est pour ça qu'il y a comme un bug. Monsieur Raguet Pablo.
Bonjour à tous.
Je sais pas pourquoi j'ai donné son nom de famille à lui, mais bon, c'est pas grave. Il a le privilège en passant en dernier d'avoir et le nom et le prénom. Alors c'est ça la classe, le principe c'est de discuter de l'actualité chaude et un peu moins chaude des derniers jours, des dernières semaines. Tous ensemble, les lycéens ont une opinion, des avis, et ils sont là pour les exprimer. C'est ça la classe. C'est la langue de bois. Et on va commencer aujourd'hui par trois sujets pendant 30 minutes que je vous propose de traiter ensemble. On terminera l'émission par cette question qui taraude tous en ce moment et qui intéresse chacun d'entre nous au sens premier du terme. Existe-t-il une famille idéale? Famille idéale, cadeau ou pipeau? À l'époque où les papas séparés de leurs enfants avec des conflits avec le père et la mère montent en haut des grues pour manifester leur désapprobation et leur chagrin, à l'époque où l'on parle de famille homoparentale, eh bien, est-ce que l'on peut définir en 2013, quand on est un lycéen de 15 ans, 16 ans, 17 ans, c'est subjectif évidemment, mais une famille idéale, est-ce que ça veut dire quelque chose ou plus maintenant il y a des familles et non plus une famille? On s'intéressera aussi à un sujet sur les quotas. Régulièrement dans l'actualité revient cette question, faut-il instaurer des quotas pour parvenir à la parité homme-femme? Les quotas sont-ils un mépris pour les femmes ou constituent-ils un outil pour les dames? Est-ce que c'est les considérer que de les établir ces quotas ou au contraire faire en sorte que parce qu'elles sont femmes, elles doivent avoir tel ou tel poste et est-ce que c'est vraiment méritoire pour elles? Nous en parlerons tout à l'heure. Mais je vous propose de commencer, chers lycéens, cette émission par un sujet particulièrement d'actualité avec la fameuse affaire Cahuzac, comme les journaux la baptisent désormais. Et par rapport au mensonge, de manière générale, faut-il punir par la loi le mensonge? En France, il n'existe pas ce que l'on appelle le délit du parjure, contrairement aux États-Unis. Les sportifs mentent. Lance Armstrong, qui a tout le temps soutenu pendant des années qu'il ne se dopait pas, et le contraire a été largement prouvé depuis. Récemment, le grand rabbin de France s'était fait passer pour un agrégé alors qu'il n'a jamais réussi l'agrégation. Les plagiats des écrivains, les mensonges d'État. Bill Clinton aussi, en son temps, qui avait menti sur sa vie privée, enfin semi-privée, semi-professionnelle. Est-ce que, d'après vous, le mensonge doit être un délit? Et est-ce que la loi doit s'occuper de cela? Ou est-ce que c'est simplement la chose que l'on doit reprocher, qui doit être reproché, qui doit être punissable, et pas le fait d'avoir menti? Oui, Adrien?
Moi, je pense que tout dépend de la gravité du mensonge, comme Lance Armstrong qui était un mensonge donc sportif. Donc, comme on le pense tous, le cyclisme, c'est un sport où pratiquement tous les coureurs se dopent. Donc, ça aurait été lui ou un autre, il y aurait eu part à un mensonge. Mais après, d'un point de vue politique où c'est plus délicat, c'est beaucoup plus d'actualité, ça serait. Pour la peine, ça serait peut-être nécessaire que ça soit puni. Oui.
Vous pensez, les autres, c'est presque un autre sujet, mais que tous les cyclistes se dopent, ou presque, comme vient de dire Adrien?
Moi, j'avais un...
Donc, les autres, c'est Adrien de nouveau.
Moi, j'avais justement un professeur qui voulait s'inscrire dans un club de cyclistes. Et ils lui ont demandé s'il se dopait. Il a bien sûr répondu non. Et il ne s'est pas fait prendre par ce club. Donc, ça en a surpris plus d'un. Mais,
voilà. Les autres, que pensez-vous de ça? Est-ce que le fait de mentir, c'est punissable? Qu'est-ce qui est plus grave, mentir ou commettre une faute? Ou les deux? Oui, Clarisse?
Ben, je pense que quand on ment, déjà, on l'a sur la conscience. Donc, quelqu'un qui va mentir, il va déjà le payer un peu. Après, mentir, oui, pareil. Enfin, je suis d'accord avec ce qu'a dit Adrien. À quel degré? Pour un grand mensonge, comme là, dans une compétition, comme a fait Louis Armstrong, forcément, il doit être retiré de la compétition. Mais, c'est pas bien. Mais, c'est très subjectif pour punir. Parce qu'il n'y a pas une loi qui va... Enfin, il peut y en avoir plein, des mensonges. Il n'y a pas un mensonge en particulier. qu'on peut juger.
Est-ce que c'est plus grave de mentir quand on a une fonction d'État, qu'on a un poste important au l'État? Ulysse?
Oui, je pense que c'est plus important quand on a une responsabilité devant les Français, parce que on a été élu sur leur confiance, on a été élu ou en tout cas on les représente, parce que voilà, une majorité des citoyens ont voté pour eux, on leur donnait une confiance et ils représentent le peuple, et donc mentir comme pour l'affaire Cahuzac, c'est mentir en fait quand ils mentent dans leur place de leur fonction, c'est mentir entre guillemets à tout le peuple français et à je pense pas que ça doit être puni, parce que après ça, je pense aussi ça bloquerait les débats parlementaires, plus personne n'oserait rien dire sur le mensonge, et
ça ne doit pas être un facteur aggravant alors pour la justice, oui, le fait d'avoir menti d'après toi.
Oui,
ça doit pas être une peine supplémentaire.
Non, le fond suffisamment souvent bien, enfin suffit bien,
c'est vrai,
à les plonger mal les politiques pour pas qu'on les accuse de mentir.
Dans le journal du dimanche de dimanche dernier, on a une interview d'un ami, alors certains disent qu'avec des amis pareils, point de suspension, de monsieur Cahuzac, qui lui demande de démissionner, et je te demande de ne pas t'égarer, il s'appelle Dominique Lefebvre, c'est un député. Et justement, il parle du mensonge, et il dit, donc il s'adresse directement dans une lettre ouverte à son ami, « Tu le sais, c'est non seulement un délit ce que tu as fait, c'est aussi pour l'homme de gauche que tu es une faute politique. » Tu es une faute politique. Monsieur Strauss-Kahn avait parlé de faute morale. Et il écrit plus loin, « Mais ce n'est pas là l'essentiel. » Donc ça n'est pas la faute politique qui est l'essentiel, c'est un petit peu contraire à ce qu'on disait à l'instant, Ulysse. Mais en ce qui concerne ton mandat parlementaire, il y a beaucoup plus grave, et tu le sais, c'est le déni et le mensonge dans lequel tu t'es fourvoyé. Donc pour cet ami, le plus grave, c'est d'avoir menti. Oui.
Oui, moi, je pense que le manchose, bon, il est très grave, il a été long, monsieur Cahuzac a menti devant la représentation nationale à l'Assemblée nationale. Il a menti, dit-on, les yeux dans les yeux à François Hollande, et c'est pas normal, mais que surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que bah, déjà, il a eu un compte en Suisse non déclaré pendant 20 ans, qu'il a été ministre du budget et auparavant président de la commission des finances de l'Assemblée nationale en ayant ce compte sans rien avoir dit. Et donc, quand l'affaire a été dévoilée début décembre, c'était son administration dont il était le chef direct, il était chargé de lutter contre la fraude fiscale, qui a dû aller prouver qu'il avait ce compte ou qu'il n'avait pas ce compte. N'y a-t-il pas un problème de conflit d'intérêts?
Ce qu'il a démenti hier, hein, puisqu'il a donné une nouvelle interview. J'entendais ce matin sur Europe 1, je crois d'ailleurs, des psychologues et des sociologues qui analysaient cette interview, et tout le moindre froncement de sourcils, d'épaules, de front, est-ce qu'il continue à mentir ou pas, c'était assez intéressant.
Il était très tendu.
Il parlait de paupières tendues vers la droite ou vers la gauche, alors toutes ces subtilités m'échappent un peu, mais il apparaissait en tout cas très tendu. Le choix du décor était très intéressant, un décor assez sobre, épuré, comme pour épurer les mensonges. C'était soigneusement choisi par un journaliste qui est... reconnu pour son travail, mais qui n'est pas forcément très connu du grand public. Peut-être que c'était certainement un choix aussi. Et une interview qui n'était pas en direct, ce qui est assez rare aussi dans ce genre de circonstances. On se souvient que M. Strauss-Kahn, lui, avait été devant une journaliste très connue, Claire Chazal, et en direct sur le plateau du 20h. Et ce qui frappe, c'est ce terme, effectivement, de blessure, de mensonge, et surtout de faute morale. Est-ce que vous pensez que c'est une faute morale? Qu'est-ce que ça veut dire, une faute morale? On a l'impression que c'est maintenant le mot passe-partout pour désigner des choses qui n'ont rien à voir, d'ailleurs, parce que M. Strauss-Kahn, ce n'était pas vraiment un mensonge. L'État, c'était une affaire privée.
Le mensonge ou les faits? Qu'est-ce qui est une faute morale?
Qu'est-ce qui te paraît, toi, une faute morale? Les deux, l'un des deux?
Les deux, bien évidemment. Plus que l'autre. La faute... le mensonge est un point désagréable, mais le fond est beaucoup plus grave que la forme, il me semble.
D'accord. On a tous menti quand on était petit. Peut-être que vous, adolescents, vous mentez parfois. Jamais on est à la radio, on est entendu. Jamais. Bien sûr, vous ne mentez jamais à vos parents.
Pour de bonnes causes.
Toujours pour de bonnes causes, évidemment. Et puis ne pas tout dire ne consente pas forcément. Ça ne transforme pas en mensonge. C'est toujours le mensonge par omission, ça aussi. Oui, mademoiselle Fanny. Une voix féminine dans ce monde masculin, jusque-là, essentiellement. À part Clarisse qui est intervenue.
À vrai dire, moi, ce que je trouve plutôt grave, ce n'est pas tant le fait qu'il ait menti pendant des mois, enfin bien sûr, ça pose un problème d'éthique, mais c'est plutôt le fait qu'il ait fait son serment de ministre, qu'il ait juré au moment de quand même de s'engager pour la République, pour représenter le peuple français, et à ce moment-là, en son âme et conscience, il a réussi à jurer pour moi, c'est à ce moment-là qu'il aurait dû ne pas jurer, et justement ne pas mentir. Après, enfin un mensonge en a entraîné un autre et c'est à partir de ce moment que c'est grave, je trouve.
Mm-hmm. Est-ce que d'après vous il y a des mensonges, et Pablo je t'écoute dans deux petites secondes, plus graves que d'autres? Est-ce qu'il y a une hiérarchie des mensonges? Est-ce que c'est plus grave selon vous de mentir sur un livre qu'on n'a pas écrit et qu'on signe de son nom? Est-ce que c'est plus grave de tricher quand on est cycliste, ou plus grave quand on est, Ulysse l'a dit un peu tout à l'heure, ministre? Pablo, puis Anne-Sophie.
Bah, ça tout dépend. Dans le domaine du sport, entre autres, le mensonge est, on va dire, presque facultatif, étant donné que le sport n'est pas indispensable à la vie de la population.
En effet.
Mais le mensonge dans le domaine financier est beaucoup plus grave. Le système dans lequel nous vivons est assez instable si tout le monde se met à mentir. Entre autres, donc il y a effectivement des mensonges plus ou moins graves.
D'accord. Anne-Sophie.
Pour moi, la gravité d'un mensonge, c'est plutôt... À combien de personnes on va mentir? Parce que c'est sûr, on disait qu'en enfant, on a tous menti, mais enfin, je rejoins toujours Ulysse.
Pas toi.
Si, on a tous menti, je pense. Mais après, la gravité, c'est à combien
on
de personnes...
On n'a pas tonné ton famille à toi, donc c'est moins grave que Pablo.
C'est au fait à combien de personnes on ment, parce que finalement, il a menti, c'est vrai, à toute la France, et c'est plus ça qui est choquant, qu'il puisse mentir à tant de personnes, vis-à-vis de sa responsabilité aussi. Parce qu'en tant que ministre du budget, quand même.
Alors, avant de passer au deuxième sujet, on va peut-être écouter de nouveau Fanny et puis Martin. Fanny ?
Bah, tu parlais du nombre de personnes et justement, je trouve que ce qui est grave dans le mensonge, c'est le nombre de personnes qui sont impliquées aussi. Parce que là, pour rebondir sur cette affaire, bah, du coup, ça entraîne une grande instabilité politique qui concerne autant le président que tous les autres hommes politiques. Et donc, finalement... Bah, on parlait tout à l'heure des cyclistes, ça n'engage que eux, leur propre responsabilité, leur carrière et tout. Alors que là, c'est l'ensemble du gouvernement qui est mis en cause.
Martha ?
C'était pour ce que je voulais dire aussi, en fait. C'était surtout pour ce que ça comprenait, en fait, les conséquences. C'est surtout, la grosseur du mensonge, toutes les personnes qui étaient impliquées, les conséquences que ça pouvait avoir. Je pense que c'est là qu'on peut juger si un mensonge il est important ou pas. Après, moi, franchement, le domaine sportif ou pas, c'est moi, je pense que c'est aussi important l'un ou l'autre. Le nombre qu'après, ben, c'est une question de morale, mais s'il y a autant de personnes que ça qui sont impliquées, et autant de personnes que ça à laquelle on ment, je pense que ce soit domaine sportif ou non, c'est aussi important.
Après, il y a aussi l'affaire de sa propre conscience personnelle, hein, comment on peut mentir pendant aussi longtemps dans différentes affaires qu'on a évoquées, et mentir avec autant d'aplomb, puisque c'est vrai que ça a été fait avec un certain talent quand même. C'est souvent fait... avec un certain talent. D'ailleurs, dans l'interview de M. Cahuzac d'hier, ce qui était frappant aussi, c'est qu'il insistait, au-delà de la faute morale, sur le fait que c'était, pour ainsi dire, une maladie. Il a parlé de folie à son propre sujet, c'est avec un peu l'idée de « pardonnez-moi » derrière, puisque finalement c'est plus fort que moi, et ça m'a dépassé, et cet intérêt pour l'argent m'a poussé jusqu'à la folie du mensonge. Pour terminer, peut-être, Pablo ?
Pour en revenir un peu au sujet, on a parlé d'une loi sur « doit-on punir le mensonge ?» Après, punir le mensonge en soi, peut-être que c'est possible, c'est une bonne idée, mais vérifier le mensonge. S'assurer dans le domaine du sport, pour en revenir au cycliste aussi, s'assurer s'il ment ou pas sur le dopage, c'est possible. Mais vérifier que quelqu'un mente sur un autre sujet, sur la politique, la finance ou sur le domaine personnel, est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas d'organisation gouvernementale telle la police qui permette de vérifier si le mensonge est réellement un mensonge ou une demi-vérité ou une vérité.
Vraiment, les sujets qui touchent vraiment toute la France, tous les Français devraient être vraiment punis par rapport à ce qui concerne un petit nombre de personnes, ou comme par exemple, tout le monde ne regarde pas le cyclisme, donc Lance Armstrong n'était pas l'idole de tout le monde, donc peut-être la peine devrait être moins grave.
Anne-Sophie ? Et cette fois-ci, on finit vraiment, parce qu'il nous faut passer à un autre sujet, c'est juste pour faire une transition, mais on va parler des femmes, et évidemment, elles ne mentent jamais. Anne-Sophie, qu'est-ce que tu voulais dire ?
Moi, j'étais pas trop d'accord avec toi, parce que finalement, le cyclisme, c'est quand même un mensonge, et ça devrait être tout autant puni, parce que finalement, celui qui est arrivé deuxième, il aurait pu être premier, et c'est une grande déception, et moi, je trouve ça quand même que c'est une faute... peut-être pas aussi grave, mais on peut pas dire que vu que ça concerne peu de personnes, c'est pas trop grave.
C'est malhonnête quand même, de toute façon.
Et puis si en plus on parle du Tour de France, je suis désolé, mais il y a quand même pas mal de personnes qui le regardent, et je pense qu'il y en a autant qui s'intéressent au Tour de France qu'à l'économie, peut-être, hein, peut-être moins, hein, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de spectateurs de plus en plus. Donc voilà, si on parle du Tour de France, je pense que, en termes de chiffres, c'est équivalent.
Oui, c'est le troisième spectacle au monde, je crois, le plus suivi derrière les Jeux Olympiques.
Il y a toutes les
et la Coupe du Monde de foot, donc oui, bien sûr, c'est un événement international.
Finir, sans être puni par une loi. De toute façon, il a été puni parce que tout le monde qui croyait en lui, finalement, ils ont été très déçus. Et je pense qu'il a aussi été puni pour ça, de son mensonge.
D'accord, merci. Ça fait déjà plusieurs années qu'on évoque le sujet. Il revient régulièrement dans l'actualité, comme on le disait au début de ce CCC. Faut-il instaurer des quotas hommes-femmes afin de parvenir à la parité entre les deux sexes ? Les quotas seraient-ils une forme de mépris pour les femmes ou au contraire un outil pour les dames ? Alors, cher lycéen, avant de commencer d'entamer le débat, quelques chiffres qui m'ont frappé et que j'ai entendu dans des sondages récents. 57% des femmes considèrent plus difficile une carrière avec un enfant que sans enfant. 20% des femmes ont carrément renoncé à la maternité pour assurer leur carrière, c'est quand même assez frappant. Alors à l'inverse, un certain nombre d'entreprises à contre-courant essayent de privilégier et d'aider les femmes dans leur travail, par exemple en établissant des crèches, des coiffeurs sur place, dans les enceintes même des entreprises. Certaines entreprises n'envoient pas de mails en dehors des heures de bureau aux collaboratrices et aux collaborateurs, mais en particulier aux collaboratrices. Certaines entreprises font en sorte de n'organiser aucune réunion avant 9h le matin ou après 18h, et d'autres encore facilitent le temps partiel. Alors le temps partiel, c'est toujours la même chose. S'il est choisi, c'est très bien et c'est effectivement une facilitation pour les conditions de vie des femmes, mais vous savez sans doute que les chiffres disent qu'il y a plus de temps partiel non souhaité chez les femmes que chez les hommes. Donc ça, on pose déjà un peu le problème. Alors d'après vous, je parlais de mépris ou d'outils derrière ce petit jeu de mots du lancement, parce que certains estiment qu'effectivement c'est mépriser les femmes que de considérer qu'on va leur donner des postes de politique, des postes à responsabilité dans l'entreprise, simplement parce qu'elles sont des femmes, et finalement pas sur mérite, sinon le mérite d'être femme, c'est un mérite. Et d'autres à l'inverse que de toute manière, bah, pas plus que d'être d'homme hein, a priori, qu'à l'inverse si on ne fait pas ça, si on n'établit pas des chiffres de toute manière et des quotas, pardon, on n'y arrivera jamais et ça fait déjà de longues années qu'on en parle et il y a toujours des salaires plus élevés chez les hommes, des postes à responsabilité plus importants chez les hommes. Si on regarde les dirigeants des entreprises du CAC 40, il y a extrêmement peu de femmes. Ulysse, je crois, a des informations là-dessus. Il ouais. trépigne d'impatience.
Ouais, pour le salaire, c'est vrai que c'est la différence de moyenne est vraiment très importante. Elle est de plus de 400 euros du salaire moyen entre les hommes et les femmes, entre 2200 et 1800 environ de différence. Et les différences, plus le revenu est important, plus les différences entre les hommes et les femmes sont fortes. Je sais qu'il y a une loi pour en 2011 pour la parité dans les conseils d'administration des grandes entreprises. Il peut y avoir des sanctions financières et même des nullités de nomination d'hommes dans des conseils d'administration d'entreprises où il y a trop d'hommes. Et voilà, il y a eu aussi il y a longtemps les interdictions de la discrimination à l'embauche. Mais c'est beaucoup de lois. Est-ce que c'est vraiment respecté ?
Vous savez que pour l'instant, les partis politiques, par exemple, préfèrent payer des amendes, puisqu'il y a des amendes de prévues, plutôt que faire en sorte qu'il y ait absolument 50% d'hommes et de femmes, si ça n'est pas respecté dans les candidatures, notamment, aux différents postes. Ulysse ?
J'ai les chiffres pour la législative les législatives de 2012. Le parti qui a présenté le moins de femmes, donc c'est l'UMP qui n'a présenté que 25% de femmes, et 14% des élus UMP sont des femmes. Et donc pour cela qu'ils ont présenté 25% et pas 50% de femmes, ils ne reçoivent pas 20 millions d'euros en moins des aides de l'État, ce qui est énorme. Le PS a présenté 45%, ils perdent 2,5 millions. Europe Écologie Les Verts a présenté la moitié, tout comme le Front de Gauche. Et le centre, un peu moins.
Donc on a les bons élèves et les mauvais élèves hein, en termes de parité. Qu'en pensent les jeunes femmes de notre assistante ? Merci pour ces chiffres, Ulysse. Ah ben non, il va falloir respecter la parité, parce que là, si les femmes, en l'occurrence, nous font un silence complet, elles vont creuser leur propre tombe. Fanny. Anne-Sophie, pardon.
Bah c'est assez choquant ces chiffres-là sur les partis politiques, parce qu'ils sont censés un peu montrer l'exemple pour les entreprises peut-être, et du coup ça choque. Moi j'étais pas au courant en tout cas.
Adrien ?
Ouais, c'est surtout dû à une insuffisance des contrôles par rapport à cette parité justement où il y a des amendes qui se mettent en place, et ouais peut-être une augmentation comment je pourrais dire, que ça soit plus sévère sur justement ces lois de parité, ça pourrait faire progresser, faire aller de l'avant justement cette
Antonin.
Parité homme-femme.
Après, moi, je suis pas forcément pour des quotas, parce que après, d'accord, il faut supprimer toute cette discrimination. Faut que les gens pensent vraiment que les femmes ont les mêmes capacités que les hommes au niveau surtout politique pour gouverner un pays. On voit avec Angela Merkel qui le fait d'une manière assez assez intéressante. Et du coup, je pense plus que il faut vraiment que les gens changent leur mentalité pour que après plus de femmes puissent arriver à des échelons politiques qui soient vraiment importants, parce qu'on en a besoin de ces femmes, on a besoin de cet avis. Après, des quotas, je pense pas, parce que si jamais vraiment les hommes, si on a le choix à la fin entre un homme et une femme, et que c'est l'homme qui a beaucoup plus de capacités, et qu'avec ces quotas on doit prendre la femme, après ça pénalise aussi un peu le parti politique.
C'est ça, est-ce qu'il n'y a pas le risque de suspicion permanente, c'est-à-dire vous êtes à ce poste-là parce que vous êtes une femme, et en plus à compétence égale comme tu disais, c'est parce que vous étiez une femme que vous avez été choisie. Est-ce que c'est pas un risque ça? On va essayer de respecter la parité, donc un garçon, une fille, un garçon, une fille. On va écouter Fanny, puis Pablo, puis Anne-Sophie, puis Ulysse, et Joris, qui est à la fois aux manettes, à la technique, et qui va intervenir pour la première fois, ce sera un grand moment. Pour l'instant, Fanny.
Ben moi, c'est vrai que ça me choque un peu le fait qu'il y ait des amendes, des quotas et tout, parce que ça veut dire que finalement, il faut presque forcer les gens de la politique à intégrer des femmes. Et donc, du coup, en effet, après, c'est vrai qu'il y aura toujours cette suspicion de est-ce qu'elle n'a pas été prise par une femme. Mais en même temps, on peut aussi se poser la question de finalement si ce n'est pas une mesure qui est nécessaire pour que les femmes aient l'occasion de faire leur preuve dans la politique, que les gens voient qu'elles ont leur place. Et une fois, justement, ça sera plus fluide et peut-être que ces quotas ne seront plus nécessaires. Donc après, voilà, je soulève
Pablo
l'interrogation.
Mais logiquement, les quotas ne devraient pas être nécessaires, étant donné qu'il a été prouvé que les femmes ont des capacités égales aux hommes, voire plus, entre autres dans le domaine de diriger les entreprises, et sûrement la politique du coup, puisque en gros...
Voire plus, on n'a pas trop eu l'occasion pendant t'interrompre de s'en rendre compte, puisqu'il y a très peu de femmes qui sont dirigeantes.
C'est
d'où tiens-tu ces informations, Pablo?
De sites d'information sur internet.
D'accord.
Je ne pourrais pas préciser lesquels, étant donné que je ne m'en rappelle plus. Et de plus, entre autres, Antonin et Fanny parlaient de la suspicion par rapport à si une femme a les mêmes capacités que les hommes. Et entre autres, depuis assez longtemps, dans le passé historique, la France et l'Europe a eu des sociétés patriarcales, du coup, que ce soit des hommes qui dirigent. Et ça a laissé des marques assez profondes dans la conscience et dans la mentalité des personnes. Du coup, on s'imagine plus ou moins que les femmes ne seraient pas aptes à diriger. Et pour préciser, à l'époque préhistorique, entre autres, il y avait plutôt des...
Remontons.
À l'origine, c'était des sociétés matrifocales où c'était plutôt les femmes qui dirigeaient.
Je te laisse la parole, Anne-Sophie, mais regardez ce qui s'est passé pendant la présidentielle de 2007, vous êtes peut-être un peu jeune. Tout ce qu'on a dit, alors, au-delà du partisanat politique pur, mais sur Ségolène Royal, parce qu'elle était une femme. Alors après, ça devient un jeu aussi à l'envers, il faut faire attention quand on est une femme. Je n'en suis pas une, je ne veux pas parler à leur place, mais à chaque fois qu'on est attaqué, de dire c'est parce que je suis une femme, parce que c'est un peu facile aussi. Mais il est vrai, assez objectivement, qu'on disait quand même, une femme à la tête de l'État, ça n'est jamais arrivé dans notre pays. Et puis, on a entendu des choses terribles, hein, du genre, une femme, ah bah oui, ça peut prendre des crises de nerfs, ça peut être hystérique. Et puis, le fameux débat entre M. Sarkozy et Mme Royal, où finalement, celui qu'on attendait au tournant et qui devait régulièrement sortir de ses gonds et rester d'un calme imperturbable, la stratégie a très bien fonctionné. Et Mme Royal, qui est un peu sortie de ses gonds elle-même au sujet d'une réplique à propos du quota d'enfants handicapés qui étaient scolarisés dans les établissements publics. Et c'est elle, finalement, qui est apparue comme... perdant un peu son calme, M. Sarkozy lui avait dit, elle lui répondant qu'elle n'était pas du tout énervée, qu'est-ce que ça doit être quand vous êtes énervé? Et n'oubliez pas qu'un président doit être calme. Bon, c'est une réplique qui a fait mouche, qui restera célèbre dans ce débat-là. Mais voilà, il y a le côté aussi un peu, une femme, ça perd ses nerfs, ce qui est absolument ignoble, macho et tout ce qu'on veut. Mais Anne-Sophie?
Non, mais je suis d'accord avec ça. Après, moi, je me demande si des quotas, ça ne va pas inciter plus
les... Pas d'accord avec le fait qu'une femme est hystérique et,
oui,
et perd ses nerfs.
Oui, non, je suis sûre.
D'accord.
Mais après, peut-être que le bon côté des quotas, c'est qu'une femme va se dire bah finalement, j'ai autant de chance qu'un homme de pouvoir y arriver et d'être prise. Donc finalement, peut-être qu'elles vont plus oser et qu'à la fin, oui, il n'y aura plus besoin de ces quotas.
Mais sur le principe, moi, je suis pas trop pour, parce que ça veut dire que à la base, elle a pas autant de capacité qu'un homme, et à elle toute seule, elle peut pas réussir.
Mmh. C'est effectivement le risque. Joris ?
Ouais, moi, je pensais surtout que ça allait être la même question partout. Est-ce, comme les partis politiques, est-ce que les entreprises n'ont pas préféré payer une amende plutôt qu'embaucher plus de femmes, respecter les quotas, on va dire ?
C'est en tout cas ce qui est avéré avec les partis politiques, hein, comme l'a rappelé Ulysse. Effectivement, ils préfèrent payer de l'argent, ce qui est assez ignoble aussi, d'ailleurs, parce que, bon, l'argent, c'est pas forcément tout à fait le nôtre, un peu quand même, puisqu'il y a des subventions publiques pour les partis politiques, et c'est un peu de l'argent gaspillé et un peu méprisant à l'égard des femmes, effectivement. Alors, une autre femme, jeune femme, Clarisse.
J'étais d'accord avec Anne-Sophie, puisque le fait qu'il y ait des quotas, est-ce que ça ne va pas dévaloriser les femmes ? Parce que dire, ben voilà, elles n'y arrivent pas toutes seules, on a besoin d'installer des quotas pour qu'elles puissent prendre des postes. Donc, en effet, il y a des côtés positifs du fait que, du coup, ça les aide à intégrer des entreprises ou des partis politiques. Mais d'un autre côté, étant donné que les femmes, elles sont aussi, autant capables que les hommes, est-ce que... Ça prouve pas le contraire, le fait d'installer des quotas, alors que finalement, c'est pas vrai.
Effectivement. Martin ?
Oui, moi je suis d'accord aussi, mais c'est vrai que malheureusement, je pense que ces critères ou ces quotas, ils sont un petit peu nécessaires, en fait. Je pense que le fait qu'il faut seulement que les mentalités changent, et que malheureusement, ça prend du temps, c'est comme pour tout. On le voit avec le mariage homosexuel ou d'autres débats de genre. Je pense que c'est vraiment un changement de mentalité qui est important, et le problème, c'est qu'il se fait pas tout seul, et peut-être qu'il y a besoin, malheureusement, qu'il y ait, pour qu'ils se mettent en place des quotas, des critères qui permettent de lancer ça, qui soient peut-être moins méprisants et qui soient mieux mis en place, qui comparent les compétences des personnes. Malheureusement, je pense que c'est un peu
Fanny plus... et Pablo et Adrien, je crois.
Mais
Adrien s'est fait piquer son idée, je crois. Non. Alors Adrien, enfin...
Mais intégrer des femmes, du coup, c'est sûr que c'est le fond du problème. Mais une fois qu'elles seront intégrées, encore faut-il qu'elles soient écoutées. Parce que quand on voit qu'une ministre, quand même, comme Cécile Duflot à l'Assemblée nationale, qui portant une robe se levait et qui s'est fait siffler par tous les hommes, et du coup, elle a même pas pu dire ce qu'elle voulait dire, je trouve ça grave quand même, parce que ça veut dire que des femmes qui sont quand même arrivées au poste de ministre, qui est un poste quand même prestigieux, et qui, du coup, auraient autant de mérite qu'un homme, finalement, et devraient être écoutées, pour le simple fait d'être une femme, elle ne peut pas. Et ça, moi, je trouve ça grave. Et ça dépasse encore même le problème d'intégrer les femmes.
On ne compte plus le nombre de témoignages de femmes députées, notamment dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, qui entendent des remarques, voire des insultes macho, voire carrément plus déplacées encore, sur leur tenue, sur le fait qu'elles sont sexy. Elles se font siffler parfois pour les raisons qu'on imagine. C'est effectivement un comportement d'homme primaire, on va dire. Pablo ?
Pour rebondir sur ce que disait Martin, entre autres...
Rebondissons.
Sur le fait de changer de mentalité, on remarque en politique, surtout, que la première femme présidente dans le monde, c'est en Islande en 1980, entre autres, et que depuis, il y a de plus en plus de pays qui ont eu des présidents femmes, donc des présidentes, entre autres. Et remarquons que l'idée, que ce pays assez novateur qu'est l'Islande est l'un des seuls pays à être sorti aussi rapidement de la crise.
C'est vrai. Je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à conséquence, mais c'est un joli hommage aux femmes, en tout cas, ce que tu viens de dire. Effectivement, le rapprochement paraît évident, de toute manière. Adrien et Ulysse ? Ulysse, Adrien a passé la main.
je voulais dire aussi qu'en fait, je pense qu'il y a une vraie évolution positive dans le bon sens des mentalités depuis les années, j'ai envie de dire, 60, et tous les postes qu'il y a eu de plus en plus. Il y a eu Margaret Thatcher... En Angleterre,
qu'on vient d'enterrer cet après-midi, ce matin.
Et je pense que ça va vraiment dans le bon sens. Il y a eu, dans le bon sens, oui, il y a eu le gouvernement paritaire en mai dernier plutôt, même malgré que la plupart des postes régaliens étaient accordés à des hommes. C'est un gouvernement paritaire avec le même nombre de femmes et d'hommes. Et je pense que tous ces quotas, hélas, pas très éthique peut-être, vont permettre que les mentalités évoluent et que la société change et un meilleur côté là-dessus. Quoi. Enfin, voilà.
Donc est-ce que vous êtes optimiste ? Est-ce que vous pensez que vous qui êtes de très jeunes gens, lorsque vous serez devenus, vous êtes presque, des citoyens et des adultes à part entière, ça va s'améliorer, ça. C'est un peu peut-être à vous aussi de jouer, puisque vous ne serez pas tous forcément politiques. Mais vous voterez, vous serez des citoyens, c'est peut-être à vous de faire changer les mentalités. Oui. Monsieur Antonin ?
Oui, donc en fait, pour réagir aussi à ce que vient de dire Pablo, ces quotas, ils sont seulement là pour... Enfin, moi, je pense que ces quotas, ils seront là pour que, justement, on entende les femmes et qu'elles montrent leur qualité et que, voilà, les mentalités, elles changent. Après, ces quotas, ils sont pas faits pour « Ah, tu dois voter pour une femme » ou un truc comme ça, ça, on est tous d'accord.
Un voilà. Truc comme ça. Oui. Et on va peut-être s'arrêter avec Ulysse. On a commencé par lui, on va s'arrêter par lui. Il
juste
semble qu'on ait
pour les.
C'est un grand bavard, cet Ulysse. Mais...
Pour les. Après, pour les quotas, est-ce que ça va pas entraîner des dérives malsaines, comme par exemple les certains partis, par exemple le PS ou d'autres, ont mis beaucoup de candidates pour appartenir à la parité sur des circonscriptions qui étaient ingagnables et qui les ont mis justement là parce que c'était des femmes. On savait qu'elles allaient pas gagner et qu'on s'est dit bah autant mettre quelqu'un, une femme là. Parce que ça va pas être gagnable et du coup on aura les financements. C'est pas, je pense pas que c'est vraiment.
C'est bien une injure, comme je disais tout à l'heure dans mon lancement. Effectivement, en général, c'est rarement dans des très grandes villes, très convoitées ou dans des postes même très convoités. Donc c'est pas très 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 respectueux à leur égard.
Hélas.
Oui. Qui veut s'exprimer vraiment pour finir cette fois-ci, car il nous faut parler de la famille. Oui.
Bah, juste pour finir, moi je veux dire, j'étais plutôt objective. Enfin, plutôt ouais pour l'avenir, parce que par exemple juste. Dans l'armée, c'est un milieu où forcément il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Et ben, finalement, on en voit de plus en plus, notamment dans l'armée de l'air, de femmes qui se lancent et qui ont autant de capacités que des hommes. Donc finalement, je pense que c'est un métier où ça montre bien qu'il n'y a pas besoin de quotas et qu'une femme peut tout autant y arriver qu'un homme.
Et bien sûr, ces bonnes paroles, nous allons passer au troisième sujet de CCC. Alors le dernier sujet de CCC, c'est ça la classe, CCC, la langue de bois, concerne la famille. La famille idéale existe-t-elle? Est-ce un concept purement abstrait, un concept tout court? La famille idéale, cadeau ou pipeau? Est-ce qu'on nous raconte des histoires en nous disant, certains, en ces moments de débat autour du mariage pour tous, des familles homoparentales, des familles recomposées de plus en plus nombreuses, des divorces de plus en plus nombreux aussi qui créent forcément ces familles recomposées. Est-ce qu'un enfant doit être élevé par son papa, sa maman, par deux papas, par deux mamans? Est-ce qu'il y a un parcours parfait à l'heure aussi où les papas séparés de leurs enfants montent en haut des grues pour protester et récupérer leur progéniture parce qu'ils sont en procès avec la maman? J'ai entendu encore hier aux informations qu'un monsieur s'était retranché chez lui dans son appartement pour protester eh bien, de la même chose. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que la famille idéale, c'est quelque chose qui existe ou ça n'existe plus? Est-ce que ça a existé? Est-ce que ça n'est que sur le papier? Théo?
On peut dire qu'est-ce qu'une famille idéale? Déjà, je pense elle est différente pour tous. Et comme on est tous nés d'un père et une mère, et je me demande pourquoi vouloir changer si on est heureux avec qui on est. Je pense que c'est important d'être heureux. Il y en a qui pensent qu'avoir une famille idéale, c'est avoir des parents qui ont de l'argent, donc qui pourront payer les études. Mais si on n'est pas heureux avec ce qu'on a, je pense qu'on ne peut pas se sentir bien.
Pablo?
Mais la plupart des familles, entre guillemets, enfin la plupart entre guillemets bien sûr, tendent vers la famille idéale, on peut dire. Tout le monde a un objectif, plus ou moins dans une famille. Et pour beaucoup, c'est une famille idéale. Et comme disait Théo, entre autres, la famille idéale varie pour beaucoup. Pour beaucoup de personnes, ça change. Et entre autres, certaines personnes essayent de faire avoir une famille idéale dans la famille recomposée ou autre chose.
Est-ce que la loi, les institutions, les politiques, hein, c'est en plein débat sur le mariage pour tous qu'on peut dire ça aussi, doit instituer plutôt une famille idéale, établir un cadre? Clarisse?
Déjà, je pense qu'il n'y a pas de famille idéale. Toutes les familles sont différentes, ça ne se ressemble pas toutes. Enfin, du coup, parler la famille idéale, il faudrait déjà définir ce que c'est. Enfin, il n'y a pas vraiment de... Enfin, c'est selon chacun, c'est très subjectif. Donc, aujourd'hui, on est dans un... Il y a un débat, donc après, c'est l'opinion de chacun. Mais normalement, du moment où deux personnes s'aiment, normalement... ils ont le droit de fonder une famille, mais après...
Savez-vous et qu'en pensez-vous que, je crois que c'est à peu près les trois quarts du temps, ce qui n'est pas peu, lorsqu'il y a séparation entre un homme et une femme, c'est dans un couple hétérosexuel, puisqu'on est parti aussi dans d'autres débats, Est-ce que vous savez que la plupart du temps, donc, l'extrême majorité, c'est la maman, en effet, Anne-Sophie, qui, par décision du juge, pour renfort, a la garde de l'enfant. Est-ce que vous pensez que c'est légitime? Est-ce que ça dépend de l'âge de l'enfant? Mais voilà, on parlait de parité tout à l'heure. Là, c'est un peu à l'envers. On considère, la plupart des juges, que de toute façon, ça va de soi que c'est plutôt la femme. Alors après, il y a les gardes partagées, des choses un peu plus compliquées, mais a priori, c'est la femme d'abord. Les femmes et les enfants d'abord. Fanny, puis Pablo.
Bah justement, moi je trouve que il y a un peu, bah parce que c'est ancré dans notre culture, un cliché de famille idéale avec donc le père, la mère, l'enfant. Et donc du coup, on pense que c'est la mère qui va savoir veiller sur l'enfant. Et finalement, à l'heure, je trouve, où, bah finalement, tous ces clichés explosent un peu avec l'homosexualité, avec les familles monoparentales, les familles recomposées, les divorces, etc. Bah finalement, il y a plus cette image, et donc je pense que tout ça c'est des choses qui doivent évoluer, et un père peut aussi bien élever son enfant qu'une mère, comme pour partir sur un autre débat, je pense que des homosexuels peuvent aussi élever, et pour moi ce qui finalement doit être le critère, c'est l'amour et les choses qui seront apportées à l'enfant, et non pas cette image dont on doit se débarrasser pour moi.
Adrien ?
Certes, un couple homosexuel peut élever son enfant, mais je pense que pour un enfant, ce qui est vraiment le meilleur, c'est un père et une mère, parce que j'avais entendu justement un témoignage d'un Américain qui s'appelait Bobby, et il disait que...
Américain, Bobby, normal.
Qui était il avait été adopté par un couple justement de lesbiennes. Il avait dit que ça avait été très difficile après dans sa vie future de savoir séduire une fille parce qu'il n'avait pas eu justement cette éducation d'un père et que ça l'avait beaucoup manqué.
Peut-être parce qu'il n'avait aucun homme dans son entourage, puisque la plupart des psys disent quand même que le père, évidemment, c'est extrêmement important. Mais qu'il faut surtout avoir des hommes et des femmes, selon les cas, dans son entourage proche.
Ah, donc je pensais que c'était...
Toi tu penses qu'il faut...
Ça serait pour un enfant, notamment au niveau de l'adoption, il y a plus de couples demandeurs que d'enfants qui doivent être adoptés. Donc essayer de leur donner vraiment le meilleur possible. Je ne doute pas du tout qu'ils peuvent être très heureux élevés par un couple homosexuel.
Mmh. Fanny ? Mais... Là, les doigts se bousculent sur la parité. C'était moins. Demandez moins le micro, mais là, sur la famille, vous êtes à fond. Mais c'est très bien, on est là pour débattre.
Moi, je suis absolument pas d'accord avec ça parce que depuis peut-être les années 1960, il y a bien des familles monoparentales avec une femme ou un homme d'ailleurs qui va élever seul son enfant. Et dans ce cas-là, l'enfant n'aura pas de modèle masculin dans le cas où c'est une femme qui est seule. Et pourtant, je pense qu'il y a beaucoup d'exemples d'enfants qui ont été élevés par un seul parent et qui se construisent très bien.
On a toujours des modèles masculins autour de soi, hein, le cousin, le grand-père, l'oncle. C'est très rare quand même des familles où il n'y a que des femmes ou que des hommes. Alors, un père, c'est un père, certes. Mais voilà, j'ai du mal à imaginer une famille dans laquelle il n'y aurait aucun homme ou aucune femme. Non ? Martha ?
Oui, ben, moi je suis content qu'on rebondisse sur ça, parce que je suis totalement pas d'accord aussi avec le fait qu'on pense qu'il y ait, ce soit mieux qu'il y ait un père et une mère. Je pense qu'il y a des couples hétérosexuels qui ont sûrement pourri la vie de leur enfant et qu'il y a des couples de même sexe qui ont eu des enfants qui s'en sont très bien sortis. Et je pense qu'il y a deux mères qui sont homosexuelles peuvent apporter chacune des choses différentes et pas forcément des choses que féminines. Et je pense que pour un mère, enfin deux pères, c'est la même chose. Donc je vois absolument aucune justification à ce qu'on n'autorise pas ça. Et d'ailleurs, il y a eu des études psychologiques qui ont montré aussi que des couples d'homo savaient aussi bien gérer leur enfant, et les apports aux enfants étaient les mêmes.
Concernant les études, petite information, c'est beaucoup dire, parce qu'elles sont très contradictoires et assez difficiles à obtenir, mais tu parlais tout à l'heure, Adrien, je crois, de ce jeune homme qui avait eu du mal à séduire les filles parce qu'élevé par deux mères. Il y a des études qui disent aussi le contraire. Grosso modo, quand même, le maximum de recul qu'on a, c'est aux États-Unis, où on a des gens qui ont une vingtaine d'années maintenant qui ont été élevés par deux hommes ou deux femmes. Grosso modo, on se rend compte que les enfants issus de couples, de familles homoparentales, quel que soit le sexe de leurs parents, sont ni plus ni moins équilibrés que les enfants de familles hétérosexuelles. Il y a des problèmes aussi, il n'y en a pas plus que dans les familles traditionnelles, on va dire. On n'a pas d'autre recul que celui-là pour un sort. Oui ?
Oui, après, ce qui peut nous amener dangereux, après chacun a son point de vue justement sur cette adoption, et... ce que certainement on ne peut pas forcément voir, c'est que après justement ce passage de loi d'adoption ou bien de mariage, est-ce que viennent des choses qui sont encore plus grave niveau pour l'enfant, notamment en, je crois dans les pays scandinaves, il y a le mariage à 3 ou 4 qui est en train de se mettre en place. Et puis ce qu'on peut voir aussi aux États-Unis, c'est que je me suis moi-même renseigné, on a vu des documentaires où on peut acheter son enfant maintenant sur Internet pour exactement 9 990 $. Donc après, c'est...
Alors ça, c'est ce qu'on appelle la GPA et voilà, la PMA, procréation médicalement assistée et gestation pour autrui, qui existe dans certains pays. A priori, la loi qui va être votée, mais il faut parler prudemment, parce que c'est quand même un peu compliqué en ce moment, il y a beaucoup de gens dans la rue, n'institue que le mariage. Mais il est vrai qu'il ne faut pas être hypocrite, et derrière le mariage, il y a l'adoption, parce que ça, c'est dans la loi aussi, déjà. Quant à la GPA, la PMA, pour l'instant, ça n'est pas du tout dans la loi. Mais c'est vrai que les détracteurs du mariage disent évidemment que ça sera l'étape d'après, parce que d'autres pays l'ont fait aussi. Oui, Ulysse ?
Bah, je pense que l'histoire du mariage pour tous et du mariage homosexuel, c'est dans l'air du temps. C'est la famille, elle est en mutation depuis les années 50, ça a tout changé. Il y a beaucoup de familles monoparentales, beaucoup de familles recomposées. Il y a rarement, enfin il y a, je pense une bonne, je sais pas les chiffres, mais il y a beaucoup de familles où qui sont recomposées avec un beau-père, des fils, des filles qui sont pas que avec leurs vrais parents. Et je pense que c'est aussi l'époque en mutation, la famille en mutation. Et je pense qu'on peut pas arrêter ça et que c'est dans l'air du temps et on peut pas, je pense que
l'évolution de la société.
Oui,
tout
oui,
simplement,
oui.
Simplement, on peut pas.
Joris.
Bah moi je pensais que de toute façon qu'on vive avec sa vraie mère ou son vrai père, je pense que ça change un peu rien tant que cette personne joue correctement son rôle ou tant qu'on a quand même un contact avec son autre parent. Par exemple, la garde alternée, ils vivent avec un beau-père et une belle-mère. Je pense que c'est une belle alternative, tout en vivant quand même avec son père et sa mère d'origine, en gardant des contacts et voilà.
T'as fait plus de cadeaux à Noël, bon ça c'est un peu la tarte à la crème.
Pas forcément.
Pas forcément, c'est du vécu.
Oui.
Ah, mais il y a forcément des plus généreux que d'autres, entre les parents et les beaux-parents. C'est pas toujours ceux qu'on croirait qu'ils sont le plus. Oui, Pablo.
Puis aussi, par rapport aux familles recomposées ou monoparentales, l'enfant a du mal à vivre psychologiquement son complexe d'Œdipe, donc plus ou moins son adolescence et puis sa révolte contre ses parents, entre autres. Et on remarque...
Tu sais que là aussi, les psys sont partagés. Les psys eux-mêmes, c'est un peu la spécialité.
Ce que j'ai entendu. Et il paraîtrait que justement, ces enfants pourraient refaire une sorte de crise d'adolescence, mais à 40 ans à peu environ.
D'accord. Tardive.
Ce qui justement provoquerait la séparation de certains couples.
D'accord. Monsieur Martin ?
Oui, je trouve que ça sert à rien de parler de ça parce que c'est injustifié.
Ah bah merci pour le non, mais sujet. Ça fait 10 minutes que nos auditeurs de Radio Diwa.
Je parle pas du sujet, je parlais du complexe d'Oedipe ou je sais pas quoi.
D'accord.
Mais je trouve que c'est vraiment un critère qui sert à rien parce qu'on n'a pas de critères, ça sert à rien de se baser là-dessus. Je pense que c'est juste un changement de mentalité. C'est comme tout à l'heure, on a juste besoin de passer à autre chose. Et le problème, c'est qu'on est trop encore ancré. Il y a encore trop de problèmes de laïcité, je trouve. Et du coup, je parle de mariage, hein, je reviens sur le mariage. Et je trouve que c'est encore là-dessus qu'il y a des problèmes avec le christianisme, les choses comme ça. Il y a trop de personnes qui sont encore attachées trop à ça, je trouve. Et oui, je pense surtout à un changement des mentalités, en fait.
Alors là aussi, je pense que c'est compliqué parce qu'il y a un certain nombre de chrétiens qui sont pour le mariage pour tous, d'autres non. Mais bien sûr que la religion est un critère
là-dedans.
Ouais. Mais tu as raison, il y en a probablement une bonne partie qui sont croyants et qui, au nom d'une certaine tradition, sont opposés au mariage.
Je crois que ce qui gêne surtout les chrétiens, c'est le terme employé de mariage, mais c'est sûr que le fait d'être en couple, ça apporte beaucoup de bénéfices, notamment au niveau des impôts, etc. Donc ça, c'est une bonne chose.
Mais
je pense surtout, ce qui énerve les chrétiens, c'est le terme utilisé de mariage qui a été... qui pour l'Église unit un homme et une femme, je pense que c'est surtout ça qu'il est...
Peut-être un problème de terminologie, effectivement. Oui, Fanny, et puis on va terminer avec Fanny, Pablo et Anne-Sophie.
Alors, moi, que ça gêne les chrétiens, je respecte ça totalement, mais pour moi, ça ne peut pas être un argument, parce qu'aujourd'hui, le mariage, il y a certes le mariage à l'Église, et que ça, les chrétiens ne tolèrent pas, c'est un respect pour moi. Mais il y a aussi le terme de mariage qui est utilisé pour le mariage laïque,
c'est
le mariage devant la mairie.
Civil.
Et voilà, le mariage civil. Donc à partir de ce moment-là, je vois pas pourquoi ça devrait être interdit aux homosexuels, puisque c'est laïque. Et pour rebondir ce qui avait été dit tout à l'heure par rapport au complexe d'Œdipe et tout ça, moi je trouve que c'est pas un argument non plus, parce que il y a forcément, dans des familles il y a toujours des problèmes, donc là peut-être que ça va générer certains problèmes psychologiques chez des enfants, le fait d'avoir par rapport au complexe d'Oedipe, mais dans une famille qui sera monoparentale il y aura aussi d'autres problèmes, dans une famille même qui aura ses deux parents il y aura certainement des problèmes, enfin il y aura, voilà, on peut pas dénoncer je trouve chaque problème, et pour moi ben il y aura pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les sondages montrent que finalement bah peut-être que par rapport à une autre famille ça n'engendre pas plus de dégâts que ça.
Pablo ?
Effectivement, je n'avais pas pensé à cette éventualité. Mais pour en revenir à une question qui n'a pas encore eu de réponse par rapport à la garde des enfants après un divorce d'un couple hétérosexuel, entre autres, personnellement, je pense...
Pablo, merci de recentrer le débat. Effectivement, j'ai dû poser cette question-là il y a une bonne dizaine de minutes.
Oui.
Et je crois qu'en effet, personne n'y a répondu. Si, il me semble, Fanny, un petit peu. Non, vas-y, avis masculin.
Et du coup, personnellement, je pense que la garde de l'enfant devrait être confiée à... le parent qui a participé au plus l'élevage de l'enfant et non uniquement la mère, parce que dans certains...
L'élevage, on va garder ça pour les animaux.
Oui, l'éducation de l'enfant si vous préférez, mais le terme exact est élever un enfant, n'est-ce pas?
C'est vrai, mais l'élevage,
oui, et
c'est le prof de français qui ressurgit en moi.
Et du coup, certains couples entre autres où c'est surtout la femme qui travaille justement qui renonce à son congé pour s'occuper de son enfant. Et du coup, c'est le père qui s'occupe de l'enfant. Dans ce cas, ce serait lui qui est le plus proche de l'enfant et qui serait plus apte, en cas de divorce, à le garder. Étant donné que l'enfant a plus de contact psychologique avec son père qu'avec sa mère.
Plus oui, de c'est sûr, il ne devrait pas y avoir d'a priori lié oui. au sexe de la personne à qui on
Exactement.
Donne la garde. C'est
vrai. Cependant, l'enfant est tout de même issu directement du corps
Une
de la femme,
femme,
on peut dire.
Jusque-là, les lois biologiques ne sont point transformées. Effectivement. Quelqu'un d'autre, peut-être pour finir, et puis nous laisserons nos auditeurs jusqu'au prochain numéro de CCC. Non, finalement. On a fait le tour de la question. Eh bien, je vous remercie d'avoir été avec nous sur ce numéro de C'est ça la classe. N'oubliez pas, c'est ça la classe, CCC sur Radio Diwa, la radio des Diwa, la radio du Diwa. La radio du Diwa est même au-delà. CCC, la langue de bois avec nos lycéens du lycée du Diwa. Au revoir et à la prochaine fois.